1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix plus
claire? Good morning, Vietnam!
Are you drinking? No.
Tonight we present a very warm little story called Kill With Time.
On a un peu dans le studio, on laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Il suffit que tu fermes ta gueule. Chaque fois, je te laisserai mon test.
Bonjour à tous, vous êtes sur PFM 99.9 et vous retrouvez pour cette jolie rentrée les décadrés avec Antoine, Benjamin et moi-même. Bonjour les gars, comment allez-vous?
On est heureux.
Punaise, ils ont de l'énergie là pour vendre, c'est incroyable.
Moi j'ai l'impression d'avoir un espèce de bulot mort coincé dans le fond de ma gorge.
Ah ouais, ça s'appelle du glaire, je crois.
Ouais, c'est du glaire, c'est exactement ça.
C'est immonde.
J'arrête pas de tousser depuis ce matin.
Tu vois, c'est le bonheur, on est heureux.
On est heureux.
Parfait, et je crois en plus que Benjamin, tu es tellement heureux que tu as un petit mot à nous dire.
Bien sûr. Non, ça va être long.
Oui, mais que veux-tu, les décadrés font leur rentrée. Donc ce lundi marque le retour des grands, des uniques, que dis-je, des magnifiques, aux formidables serviteurs, les décadrés. Comme à chaque rentrée, pour la majorité de ceux qui en font une, ou au pire, comme à chaque nouvelle année, nous avons de nouveaux objectifs, de nouvelles résolutions. Pendant cet été, nous avons testé des choses qui apparemment vous ont plu, du moins vous ont fait réagir. Je ne dis pas ça par ego ou arrogance, faut pas oublier qu'on est aussi sur Mixcloud et Facebook, mes amis gosses. Du coup, on a aussi des retours via ces supports. Ainsi, nous avons décidé pour cette année de poursuivre certaines bases, c'est-à-dire les critiques. Je pense que vous êtes d'accord.
Bon, moi, j'aime pas critiquer, c'est pas bien critiquer.
Ouais, les retours sur des films.
Ah, c'est pas bien de faire des retours. Non, c'est pas bien de faire des retours.
Les films, séries ou épisodes de séries.
Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, j'aime bien.
Les news ou encore les essais radiophoniques.
Oh, non,
et
ça,
les...
c'est chiant, ça.
Notes... sur ce tape-là, honte.
Et les notes historiques ou factuelles du cinéma ou même audiovisuel, parce qu'on parle de jeux vidéo. Pour
c'est vrai, ouais.
Nous allons faire plus que ça encore en continuant ce petit concept d'apprentissage de manière ludique.
Oui, parce que Benjamin va se mettre nu à la radio pour que vous puissiez bien le voir.
Malheureusement, nous ne filmons pas les choses.
Voilà. Qui nous guide en relançant, donc, par exemple, on va relancer le rejeu et la lecture de scénario, je pense.
Oui.
Ça vous a plu, hein. C'était drôle. Ange, j'étais senti humilié, mais sinon, ça a été. Et la mise en place de quiz cinéma avec des films à gagner, je pense.
Ah
ouais, ouais. Des petits DVD à coup de temps en temps.
Et bah dis donc, chers auditeurs, c'est une surprise pour vous et aussi pour moi, parce que je savais pas que
mais non, mais c'est
Benjamin
qui va acheter tout ça.
Du coup, comme vous en doutez, Benjamin est un homme très très riche, très puissant, très influent. Il a énormément de films à vous donner. Voilà.
J'allais dire que Noz était notre support. Non, et alors oui, j'allais dire. Et oui, les décadrés sont pauvres mais généreux, tout l'inverse du clergé, quoi. Tout cela entre autres choses, car nous avons beaucoup à vous donner. Et là, je ne parle pas d'argent. Je parle d'une chose qui n'a pas de prix, qui dépasse toute notion d'argent. Je vous parle
l'amour.
D'amour.
De l'amour.
Bon, d'accord, foutez-vous de nous. Mais tout ce dont je vous ai parlé arrivera bien. Et ce sera drôle, percutant, vilain, gentil, plein d'amour et gloire, d'honneur et de grâce. Bon, je me perds, j'arrête les conneries. Sachez aussi que nous allons accueillir de nouveaux chroniqueurs de temps en temps.
Bien sûr, ouais, on avait déjà fait avec Guillaume pour l'événement Popcorn
et
Burn.
Et des nouveaux invités par téléphone.
Ouais.
Voilà. Pas que vous ne nous aimez pas, mais... ou qu'on a plus d'inspiration, mais on pense que ça peut apporter de la nouveauté, une certaine fraîcheur, je crois qu'on est d'accord, et de nouveaux échanges ici.
Oh, sinon, si tu veux de la fraîcheur, j'ai une bombe de déodorant dans mon sac. Hein,
Oh, la vache. Ça, c'est les blagues de début d'année, déjà des blagues de fatigués. Bon, c'est la fin de ce petit édito, et je compte vous en faire supporter un chaque mois, quasiment.
Ah ouais.
Ouais. Ou quand il y aura une émission spéciale comme d'hab.
Tu veux pas faire une émission décadrée spéciale Benjamin, tu sais
Bah, je voulais en faire une spéciale. Je voulais en faire une spéciale. Tout le monde aime Antoine.
Ça fera la demi-heure de Benjamin.
Ah, ça serait pas mal.
La demi-heure de Benjamin, ouais.
Ou l'heure d'Antoine, j'aime bien. En live. Sur ce, je vous souhaite une bonne nouvelle émission de rentrée et c'est parti pour les décadrés version 2.0, soit version 2016-2017.
Et c'est parfait parce que tu vas enchaîner directement avec tes nouvelles comme tu nous le fais si bien chaque
Alors,
émission.
encore moi, toujours moi.
Ouais. Et ce sont les news de Ben.
Oui. Donc Nick Pizzolatto, créateur showrunner de True Detective, et Robert Downey Jr., qu'on ne vous présente plus, vont relancer c'est Perry Mason.
Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est ceux qui jouent Iron Man. Hein.
Voilà.
Ou Chaplin.
Donc vont relancer Perry Mason, qui est la formidable série qui suivait l'avocat éponyme incarné par le grand Raymond Burr, et diffusée de 1957 à 1966, soit 9 saisons quand même. C'est déjà pas mal pour l'époque. La série connaîtra des suites en série. The New Perry Mason dans les années 70, puis deux autres programmes. Donc personnellement, j'ai assez hâte de voir ce remake mis en place par ces deux personnes et personnalités. Pour succéder à Monsieur Burr, bien sûr, c'est Mr. Downey Jr. Ce qui est amusant, c'est que Downey Jr. avait incarné un avocat dans Ally McBeal. Donc son personnage était aussi l'amant de la protagoniste pendant toute la saison 4. Rôle dans lequel il excellait, même sous effet des multiples drogues consommées. Désolé. À noter que les deux hommes.
La drogue,
c'était
ça
pas,
fait...
c'était alors, pas
la,
drôle.
La drogue, ça fait rire Benjamin.
Non, mais c'est parce qu'il y a une blague de quelqu'un qui fera des critiques un jour ici. Il a fait une blague sur.
En fait, en plus, tu recrutes des gens sans nous dire qui c'est.
Si, je vous dirai qui c'est. Je vous ai déjà dit qui c'est.
Ah mais là on fait l'autruche parce qu'on est à la radio là.
Bande de mémoire.
Alors
à noter que les deux hommes se sont tournés vers la HBO, donc la chaîne américaine câblée et surtout maison de production et distribution de séries telles que Les Sopranos, The Wire, Game of Thrones, True Detective et la prochaine Westworld.
Ouais.
Tournée n'est peut-être pas tout à fait le terme car Pizzolatto, faut le savoir, il sera en contrat avec la HBO jusque 2018. Enfin Downey Jr. produire le show et en plus donc d'incarner le personnage. Affaire à suivre. Cette semaine est lancée la nouvelle exposition donc de la Cinémathèque française dédiée au cinéma japonais et particulièrement à ses étapes de découverte en France notamment.
Ça a l'air fascinant.
Donc nommé l'écran japonais 60 ans de découverte. J'aime bien Antoine quand tu tu te fous de ce qui est intéressant.
Oui. j'aime bien me moquer de ce qui est intéressant. Parce qu'au final, ça m'intéresse. Hein. Mais ça me permet d'être un peu con. Et j'aime bien.
J'y serai début octobre avec un certain Maxime Saint-Michel.
Oui,
donc,
Maxime
qui est un ami qui sera réquisitionné comme collègue décadré avant de vous fournir un petit reportage bien sympatoche.
Exact.
Donc voilà, je pense que ça peut être sympa.
Oui, bien sûr.
J'espère que les gardes de la Cinémathèque ne nous mettront pas dehors. En attendant, on vous passe la bande-annonce de l'événement présenté par Jacques Héroles, je crois. Je vous rappelle juste qu'une programmation en lien avec l'exposition est lancée en parallèle donc, de celle-ci. L'occasion de revoir des films brillants, en pellicule 35mm, je tiens à le dire, comme Rashomon, Quaidine, et des curiosités comme Le Satellite Mystérieux, pour un prix convenable, et rien que le prix d'entrée normal pour l'exposition est d'environ 5€, il me semble.
D'accord.
Voilà.
Bah, merci pour tout, Benjamin. On enchaîne avec la petite interview musicale dans ce cas.
En fait...
La Cinémathèque française a permis de redécouvrir, de découvrir tout simplement le cinéma japonais, parce qu'il n'était pas du tout connu après la guerre. Elle organise une succession de programmations à partir des années 60, et tout au long des années 70, 80, il y aura vraiment des rétrospectives régulières, permanentes, qui permettent de découvrir, de voir ces films tout simplement, parce qu'ils sont parfois encore très difficiles à voir. Et s'accumulent dans les collections de la Cinémathèque ce qu'on appelle les petits papiers, ce que l'anglo a appelé les petits papiers, c'est-à-dire les scénarios, les photos originales, les affiches japonaises, les affiches françaises, les costumes, bien sûr, qui vont enrichir la collection des costumes, les dessins. Kurosawa était un grand dessinateur, c'était quelqu'un qui avait un talent extraordinaire. C'était un peu un phare au sens baudelairien, finalement, du cinéma mondial, un peu comme Fellini. Et donc, on voit dans l'exposition des dessins de Kurosawa. On a la chance d'avoir quelques dessins de Kurosawa. On en avait vu dans une exposition au Petit Palais il n'y a pas longtemps, il y a quelques années. C'est très rare de voir des dessins de Kurosawa, donc on a la chance de voir dans cette exposition de voir des dessins de Kurosawa. On voit aussi des affiches, parce que les Japonais ont hérité du 19e siècle l'art de l'affiche. Dans le cinéma japonais, on voit des affiches extraordinaires qui juxtaposent justement plusieurs moments, plusieurs images, qui n'hésitent pas à utiliser le doré, l'argenté, à mélanger plusieurs couleurs. Il y a même des affiches qui sont des sérigraphies. Et donc là aussi, un art de l'affiche extraordinaire qu'on ne trouve que dans le cinéma japonais. Pour les yeux d'un occidental, la calligraphie, l'écriture japonaise qui se lit comme ça, qui s'enveloppe, qui devient presque un nuage dans l'image, donc se mélange aux images elles-mêmes. Donc c'est vrai qu'il y a une alliance du texte et de l'image qu'on ne retrouve pas sur les affiches occidentales, forcément. Donc là aussi, il y a une magie de l'affiche qui est propre à ce cinéma-là. Donc à l'occasion d'un don l'an dernier, en 2015, on s'est posé la question, mais c'est quand même extraordinaire, on a plein de documents qui viennent du Japon. Et on s'est dit, on va organiser une exposition qui est consacrée au Japon, tous ces dons successifs depuis au moins 60 ans qui sont arrivés à la Cinémathèque française.
Et dernière news, Gene Wilder est mort. Vous l'avez peut-être appris cet été.
Ouais.
Donc, celui qui nous aura fait rire et ému dans la formidable adaptation de Charlie et la chocolaterie de 1971, donc qui est réalisée par Mel Stewart, que je préfère largement celle de Tim Burton, ou encore dans Frankenstein Jr. de Mel Brooks, donc est décédé cet été, et on voulait lui rendre un hommage, peut-être pas digne de sa carrière, de tout ce qu'il nous apportait, mais voilà, on y tenait. Donc... voilà la chanson Pure Imagination, chantée par Gene Wilder, le seul Willy Wonka à l'écran, à nos yeux. Merci à vous, Monsieur Wilder.
Hold your breath. Make a wish. Count to three.
Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Take a look, and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin. Traveling in the world of my creation, what we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it, want to change the world, there's nothing to it.
Hurry up, Violet!
This way, Grandpa!
Et maintenant, ça va être Antoine qui va enchaîner avec un film qui parle d'une certaine distance. Comment c'est loin.
Alors, voilà, on en revient toujours au système métrique, évidemment. Hein. Alors oui, chers auditeurs, le roi des introductions pourries est de retour, et cette fois-ci, je m'attaque à un morceau du cinéma français. Enfin, je m'attaque à un morceau du cinéma français, c'est vite dit, hein, parce que c'est vrai que entre Les Tuches et Camping, qui est sorti cet été, Camping 3, on peut dire qu'il y a de quoi écrire des pavés de pamphlets sur le cinéma français, et plus particulièrement sur le genre de la comédie française. Mais bon. Je vais pas vous faire ce plaisir, parce qu'aujourd'hui c'est la rentrée, et pour fêter notre retour sur PFM, j'ai décidé de vous parler d'un film plutôt chouette. Alors, petit jeu, celui qui trouve, il gagne un bisou. Alors, il s'agit d'un buddy movie, mettant en scène deux trentenaires paumés,
J'ai trouvé.
Bloqués dans l'adolescence et qui ont 24 heures pour écrire un morceau de rap alors qu'ils ont été infoutus d'écrire une seule ligne en 5 ans.
La buzz.
Alors oui, donc oui, je vous parle bien, pas de la buzz, mais du film Comment c'est loin, qui nous vient du fameux duo Les Casseurs Flauteurs, formé par Aurel San et Gringe. Alors,
Gringe.
Bien que... Non, c'est Gringe.
Gringe.
Ah, merde.
Ah,
non,
fais
non,
gaffe.
Lui, il a fait une chanson dans l'un des albums dans laquelle il déteste qu'on l'appelle Gringe. Du coup, pour lui, c'est Gringe.
Ah, excuse-moi.
Ouais, mais tu as raison de t'excuser. Excuse-toi auprès
de Gringe. Pardon, monsieur le Gringe.
Alors, bien que le film soit signé par Aurel San, celui-ci a cherché quand même à bien s'entourer pour l'écriture du scénario et aussi la réalisation. Au dialogue, nous retrouvons le rappeur de Caen aux côtés de Stéphanie Murat, scénariste et réalisatrice du film Max, entre autres, film avec Joe Star, ainsi que Christophe Offenstein, qui sera à la réalisation avec Aurel San, mais également crédité en tant que directeur de la photographie sur le film. Alors bon, Christophe Offenstein, qui est... Il a fait beaucoup de directions photographiques sur des tournages et qu'il a réalisé par exemple films notables. On peut noter par exemple le En solitaire avec François Cluzet et Jean-Paul Rouve. Benjamin ?
Oui.
Oh, tu Benjamin, sais, si tu connais pas ce film.
Tu ne l'as pas vu ?
Si, il me semble que je m'en souviens, mais je suis pas sûr.
Voilà, c'est avec un navigateur.
Ah, c'est ça. Ouais, c'est
voilà. Bon. Donc, du coup, c'est voilà, ce film-là. Et petite chose à savoir également sur le film, c'est qu'il a été en partie inspiré par l'écriture de l'album Aurel San et Gringe Son, Les Casseurs-Flotteurs, un album concept, qui raconte une seule et même histoire du duo rythmée par des interviews de parler. Alors, bon, c'est bien gentil de vous parler des gars qui ont fait le film, mais le film en lui-même, ça donne quoi ? Eh bien, c'est un film en fait qui m'a surpris. En fait, je m'attendais à un défilé de punchlines, de commentaires froids et sarcastiques sur la vie de deux trentenaires complètement à côté de leur pompe. Et en fait, au contraire, nous suivons juste deux personnages installés dans leur médiocrité qui n'ont toujours pas réussi à franchir le cap de la maturité. Alors, est-ce que c'est suffisant pour écrire un bon film ? Eh ben, oui. En fait, oui. Carrément oui, double oui, triple oui, quadruple oui, 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 ça fonctionne. Alors certes, comme on peut s'y attendre, il y a des punchlines, il y a de l'humour, même si au final, on n'explose pas forcément de rire lors des gags. On est plus surpris par la connerie interprétée par les personnages de Aurel San et de Gringe, en fait.
Moi, tu ris pas aux éclats, ça voilà, fait sourire, en fait.
C'est un peu comme quand tu lis Martine fait du rap, quoi.
C'est, ouais, c'est un peu dans ce délire-là, en fait. C'est, on rigole, parce qu'il y a des petits gags qui sont drôles, quelques punchlines rigolotes, mais on n'est pas là en train d'exploser de rire du début à la fin en se disant « Ah putain, les gars, ils sont trop cons !»
C'est pas une grosse comédie. Midi, quoi.
Voilà.
Il faut que je vois ça.
Alors, du coup, comme je disais, on est plus surpris par la connerie des deux personnages. Donc, par exemple, Aurel, qui est interprété par Aurel San, c'est le mec qui se projette encore dans ses rêves d'ado, qui croit encore aux possibilités de devenir rappeur pour quitter son job de nuit dans un hôtel. Alors que Gringe, de son côté, c'est le type hyper pessimiste qui pense que les rêves sont juste des fantasmes irréalisables. Alors, comme vous en doutez, pour ces deux potes, écrire une chanson, ça va se retrouver plus compliqué que prévu. Entre flemme, galère de dernière minute, prise de conscience, engueulade, il semblerait que le duo ait d'abord quelques obstacles à surmonter avant de coucher leurs mots sur un papier. Alors, quant à la réalisation du film, nous avons une réalisation qui est assez intéressante puisqu'elle suit avec intérêt le scénario du film. Alors, je m'explique, on nous raconte l'histoire de deux mecs lents, sans but, sans motivation, et dans le film, la force de la réalisation réside aussi dans cette lecture du scénario. Toutes les actions sont posées, chorégraphiées, même puisque de manière générale, les plans dans le film sont plutôt longs, ce qui, en plus d'instaurer une certaine lenteur dans le rythme de montage, nous donne aussi un aperçu des corps fatigués et traînés par nos deux compères rappeurs. De plus, ces moments sont parfaitement bien chorégraphiés, ajoutant également son petit lot de gags visuels. On ressent également l'importance laissée par les entrées et les sorties du champ de vision de la caméra. Alors, du coup, on imagine un peu un hors-champ vide, mais qui, grâce au punchline et au talent des comédiens, va permettre de faire ressortir les personnages. Des personnages humains remplis de doutes, d'attentes, de rêves, d'espoir, mais aussi parfois d'amour. Et en fait, Comment c'est loin, c'est un peu le portrait d'une génération dont je pense plus ou moins faire partie et qui est un peu paumée, indécise sur la manière de poursuivre ses rêves et trop souvent fatiguée de devoir se battre contre la pensée mature de l'adulte. Alors Comment c'est loin, c'est un peu l'histoire de chacun d'entre nous, une tranche de vie qui marque peut-être un tournant pour des lendemains meilleurs. Et après avoir vu le film, la question qu'on se pose est à peu près la même question que l'on se pose le lendemain d'une soirée dans laquelle on a cherché à bousculer les choses et son fonctionnement. Merde, qu'est-ce que je fous maintenant ? Voilà, tout simplement. Alors oui, je sais, cette conclusion est un peu ratée, elle est un petit peu bâclée, me direz-vous même, mais plutôt que de longs discours, moi je préfère vous laisser conclure cette conclusion, donc, sur un morceau des deux rappeurs issus d'une de leurs chansons sorties pour le film qui s'appelle Inachevé.
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 Comme ta conclusion.
je finis pas mes phrases.
Je connais pas les points,
je commence après-demain.
Je contrôle pas le destin,
rien n'est assez bien.
Je finis jamais rien,
manquerait la moitié des traits si je devais te faire un dessin.
En hommage à toutes les opportunités gâchées, à nos histoires mortes avant d'avoir démarré, aux heures laissées passer, aux potes jamais rappelés, au job que j'ai lâché, aux portes que j'ai claquées, à tout ce que je laisserai.
Inachevé.
Adolescent, mon seul but c'était mettre des paniers. Bien sûr j'ai tout plaqué pour un seul match où j'ai pas joué. Évidemment je vais faire pareil avec le son, pas besoin d'une bonne raison. De toute façon je suis pas censé rapper. À toutes les vérités que j'ai pas osé m'avouer. Ma meuf me casse les couilles, j'ai pas les couilles de m'en séparer. J'attends qu'elle me quitte, les bras croisés en attendant la suite. En avant la fuite, j'attends la gloire, j'attends qu'elle me bip. Incapable de faire des choix, je suis comme mes figurines. Inutile, je reste chez moi, je baisse les bras.
Inachevé.
Un prototype, une version bêta, une seule réponse à toutes les questions. Je sais pas, comme un constat d'échec dans la playlist. Comme un air d'abandon sur la setlist. Je fais rien à fond donc je serai qu'à moitié triste. Et à l'image de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je vais même pas finir mon couplet.
Pourquoi quand elle m'attend sagement, je passe toutes mes nuits à jouer. Pourquoi est-ce que je l'évite lâchement quand je la sens tirailler. Je trouve pas les réponses, peut-être que je suis comme Mario. La tête dans les nuages à la recherche d'une vie cachée. Je compte plus mes relations.
Inachevé.
Meuf ou branlette améliorée, je fais pas la diff donc elle me quitte fâchée. J'ai essayé de changer les choses, lui dire avec des roses, la sauver de mes névroses. Mais comme les études, ça m'est vite passé et je ressens comme un vide.
Inachevé.
J'ai jamais rien fini sauf ce que j'ai entrepris de gâcher. Complètement détaché, je m'écoute raconter des histoires. Le monde peut bien m'attendre même si je suis tout seul à y croire.
Faudrait qu'on se pose et qu'on discute.
Qu'on discute, ouais, on verra ça demain. Là je vais rejoindre mes potes, c'est jeudi soir. Mode de vie nul, j'avale la pilule tristement. Admettre la vérité, je refuse. Je me montre des complots, longtemps que je simule. Persuadé que je fixe le temps. Incapable de voir que tous mes refuges sont mes tombeaux.
Long à la détente, mauvais sur la longueur. À quelques millièmes de seconde de laisser passer mon heure.
La tête pleine de doutes, à confondre rien foutre avec patience. Je te parle pas de galanterie quand je dis que je laisse plus passer ma chance.
La médiocrité commence, là où les passions meurent. C'est bête mais j'ai besoin de cette merde pour sentir battre mon cœur.
J'ai tellement misé sur mes faiblesses et mes failles. Je mérite une médaille, au final j'ai fait que briller par mes absences.
Tu parles de quoi?
Je te parle de moi, je te parle de faire des choix. Si tu renonces à rien, tu choisis pas, faut que je me barre de là.
Et on parle et on parle de partir pendant qu'on reste là. Mais si on se tire c'est vers le bas, on s'y fait, on vit presque pas.
À partir de maintenant,
je commence mon ascension.
J'ai plus peur du vide,
d'affronter la spirale sans fond.
Donc j'arrête d'arrêter,
j'abandonne l'abandon.
Si je dois finir une seule chose, c'est cette putain de chanson.
Et vous écoutez bien les décadrés sur PFM 99.9. Vous êtes avec Ange, Antoine et moi-même Ben. Et ça va être à...
T'es trop
Ange.
Heureux d'être là.
Ça, ouais, t'as remarqué, je suis heureux, je suis happy. Voilà, et ça va être à Ange de nous faire un jeu.
Tout à fait. Je vous ai préparé un petit jeu, un petit blind test en fait, plus précisément. Donc en fait, je vais vous passer une petite... donc bien sûr, les auditeurs peuvent jouer bon, chez eux, sans téléphoner, bien entendu. Mais je vais vous passer des petits passages de films. Il va falloir bien entendu me deviner le film. Et si vous savez, le petit élément caché de ce film, un petit secret, un petit truc suspect que peut-être personne ne connaît ou que beaucoup de monde connaît. Donc attention. Premier extrait.
Pur sang, la légende de ces biscuits.
Écoutez bien.
Seigneur des Anneaux. Ouais.
Bon alors vous connaissez très bien ce passage-là. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, en fait, c'était bien le Seigneur des Anneaux. Ouais. Donc là, vous venez d'entendre Legolas et Aragorn, précisément. Gimli est un peu derrière, je crois qu'il court encore derrière après les chevaux. Mais il arrive pas loin. Et en fait, petit secret par rapport à ce film, pour ceux qui ne connaissent pas, vous venez d'entendre le hurlement de Viggo Mortensen qui campe le rôle de Aragorn, qui a tapé dans un casque de colère pour ne pas avoir retrouvé ses petits copains. Et en fait, il crie pas vraiment de colère, en fait, il crie plutôt de douleur parce qu'il s'est pété les orteils tapant dans le casque.
Ouais.
Donc voilà, un petit accident de tournage.
Et Legolas, du coup, il les a retrouvés ?
De quoi ?
C'est godasse.
Non. Par contre, un autre truc que j'ai découvert aussi, c'est Orlando Bloom, pendant une autre scène de ce film, s'est cassé les côtes.
Oui, il s'est
pendant
cassé,
une scène d'action.
Il s'est fait les deux côtes.
Voilà, donc c'est un film, en fait, Le Seigneur des Anneaux, très dangereux pour les acteurs.
Ça a fait Bloom.
Mais ils en sont sortis vivants.
Not of Bloom.
Très bien, vous avez déjà trouvé celui-là, il était assez simple. Nous allons passer au deuxième.
Lui qui me dit ça, je parle pas un mot d'anglais.
Attention, oui, c'est en anglais parce que sinon c'est trop simple. Attention, c'est parti.
At that point, I wasn't scared. I knew I hadn't done anything.
Attendez la fin pour vous donner votre réponse.
Besides, it was fun.
Oups, excusez-moi, il y a un petit bug. Ça revient tout de suite. Oula. On y retourne.
At that point, I wasn't scared. I knew I hadn't done anything they could do me for. Besides, it was fun. I got to make like I was notorious.
All right, you all know the drill. When your number is called, step forward and repeat the phrase you've been given. Understand? Number one, step forward.
Alors là, c'est pas...
Je vais juste avancer un peu.
Number two, step forward.
Si je peux.
Ah, en fait, je sais pas du tout de quoi il s'agit. Trop noir. Parce que le I am fucking tape, mais merde.
Alors cette scène, c'est la scène de The Usual Suspect. Et en fait, pendant cette scène, là, on l'entend très bien. Ils se marrent tous. Tous les acteurs se marrent en fait pendant qu'ils sont en train de passer, en train de devoir dire une phrase. Et en fait, d'après les dires, je crois c'est du bonus du DVD, c'est une scène de prout. Benicio del Toro, qui était dans cette scène, en fait, ça ne pouvait s'empêcher de péter pendant cette scène, ce qui a fait très rire les autres acteurs. Mais ça n'a pas vraiment plu au réalisateur, en fait, Bryan Singer, qui a détesté cette scène, qui à chaque fois voulait la refaire, absolument la refaire, parce qu'il ne voulait pas que ses acteurs se marrent. Et en fait, au final, ils ont jamais réussi.
Ils sont tous derrière la vitre et on les voit se marrer et on se dit, mais c'est Space.
Mais en fait, normalement, ils devaient pas se marrer. Et donc, ils voulaient pas garder cette scène, mais au final, ils se marraient tout le temps, même après les autres prises. Ils arrêtaient pas de se marrer à cause de ça, à cause de Benicio del Toro. Et donc, ils ont gardé cette scène qui est devenue assez culte, en fait, parce qu'au final, les voir se marrer comme ça, alors que.
C'est devenu même l'affiche du film.
Oui, tout à fait.
Une scène assez culte. Parce que Benicio del Toro, il faisait des proutes.
Oui, c'est ça. On enchaîne avec la suivante.
Au cœur de l'humour, toujours.
Et dernière. Separation of our two species. In the skull of the
African here. J'ai reconnu Django Unchained.
Bien, Django Unchained.
J'ai reconnu la voix de Caprio avec le crâne africain.
Tout à fait. Alors ça, pendant cette scène, c'était encore une scène de violence. Donc on, je sais pas si on l'entendra parce que c'est une scène quand même assez longue et culte. Pendant cette scène, Leonardo DiCaprio s'est blessé la main en s'énervant en fait. Il a tapé sur une fourchette ou sur un couteau, je ne sais plus. Et il s'est ouvert la main et il a continué de jouer. Tout le monde a continué de jouer. Donc ça c'est magnifique parce qu'il pissait le sang et au final, Tarantino n'a pas dit couper et lui il a continué de jouer parfaitement dans son rôle. Donc ce qui était quand même pas mal, même malgré la douleur. Donc voilà, petit secret de tournage qui arrive comme ça.
Du coup, Benjamin il a eu 2 points, il gagne quoi ?
Il gagne rien, il gagne le droit de revenir à la prochaine émission.
Ah, c'est tellement gentil.
Et pour se quitter, je vais vous laisser avec une petite musique qui annoncera mon prochain sujet de la prochaine émission.
Oh, mais le mec présente déjà sa prochaine chronique. Exactement. Il gagne du temps. Wow.
Je l'ai pas encore faite, hein, mais au moins vous saurez ce que je vais vous présenter.
T'étais à un point de pouvoir gagner ton émission d'une heure. Oh mon dieu.
Alors attention.
J'suis tellement déçu.
On se dit au revoir.
Au revoir.
Et à bientôt.
99.9 BFM.
Salut.